Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libéré pour Pot de Conduite. Épisode un petit peu en décalage avec ce que je fais d'habitude, dans le sens où au niveau de la publication, cet épisode va sortir avant les autres. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que je vais te parler d'un produit qui est en financement participatif sur KissKissBankBank. Donc si je t'en parle dans 2 mois et que le financement est fini, ça sert un petit peu à rien. Surtout que c'est un projet que j'apprécie et que j'ai envie de partager. Alors ce projet, c'est quoi ? C'est le projet Loch Nest. Alors attention, j'ai bien dit Loch Nest et pas Loch Ness, hein. On part pas dans les lochs chercher des créatures bizarroïdes. Non, non. Le projet Loch Nest, tu peux le retrouver sur lochnest.fr, lochnest.fr. Alors, ce projet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Loch Nest, c'est un gestionnaire physique d'identité numérique. Alors, qu'est-ce à quoi qu'une identité numérique ? C'est tout simplement... Vas-y, madame, traverse la route, mets-toi n'importe comment... Donc un gestionnaire physique d'identité numérique, c'est un boîtier physique que tu peux avoir dans la main, dans la poche, qui va gérer à ta place la saisie des mots de passe, notamment quand tu es sur un site web ou dans une application qui nécessite une identification. Alors tu me diras en quoi ça diffère de ce qu'on connaît déjà. Bon, ce qu'on connaît déjà, c'est les gestionnaires de mots de passe. Tu as les trucs comme 1Password, donc qui eux sont des outils, des services auxquels tu souscris. C'est gratuit ou payant selon les options que tu prends, selon les fonctionnalités que tu veux. Bon, ça existe. Gros désavantage, c'est que la majorité de ces boîtes qui éditent ces outils ne sont pas forcément sérieuses. Et une, je crois que c'était 1Password qui a subi des attaques et des pertes de données, des fuites de données, n'a même pas communiqué auprès de ses utilisateurs pour leur demander de changer les mots de passe. Bref, donc au niveau sécurisation, tu te dis que c'est quand même vraiment au ras des pâquerettes. Tu as les gestionnaires de mots de passe qui sont intégrés au navigateur, que ce soit Edge, Chrome, Firefox, les 3 grands navigateurs. Alors j'en sais rien pour Safari, mais j'imagine que oui. Donc au moins les 3 grands ont des gestionnaires de mots de passe depuis un moment. Et effectivement, moi j'ai quand même facilement plus confiance dans un Microsoft, voire même dans un Google, que dans une petite société au niveau sécurité. Donc, je me dis qu'ils ont plus de moyens et que s'ils le souhaitent réellement, ils ont la possibilité... de manière beaucoup plus poussée, d'assurer la sécurité des données qu'on leur confie. Bon, après, voilà. Autant Microsoft, j'aurais un peu plus de facilité à leur faire confiance. Je me dis que je suis client chez eux et que je paye des services, donc ils ont intérêt à pouvoir me garder. Alors que Google, c'est toi le produit, généralement. Tant qu'ils récupèrent tes données personnelles, c'est tout ce qui les arrange. Bref, un autre désavantage, c'est que la majorité des applications que tu peux utiliser ont des codes sources fermés. Et tu sais pas ce qui est fait derrière. Voilà. Il n'y a que Bitwarden qui est un gestionnaire de mots de passe qui, a priori, est plutôt sérieux, qui a un code source ouvert. Donc s'il devait y en avoir un à choisir, ça serait sûrement celui-ci. Il y a aussi des solutions plus de barbu, hein, où tu peux installer un gestionnaire de mots de passe sur ton NAS ou sur un serveur perso et tu vas pouvoir gérer ça toi-même. Alors, c'est très bien. Mais je pense que c'est le genre de solution qui ne s'adresse qu'à une frange très minime de la société. Donc là arrive Loch Nest. Loch Nest, donc gestionnaire physique. Donc tu l'as compris, ce gestionnaire physique va stocker dans un boîtier, dans une clé. Alors un petit boîtier d'à peu près 6 cm de long, entre 6 et 7 de long, et entre 3 et 4 cm de large. Donc dans le boîtier, il va y avoir de stocker ton mail, l'adresse du service, le mot de passe, et tout ça, ça va être chiffré. Ça va être chiffré jusqu'à un chiffrement de 256 bits. Donc normalement, ça reste un truc qui est bien sécurisé et sur lequel tu peux t'appuyer. L'accès au boîtier, je vais t'en reparler dans un petit instant. Je fais juste finir, tant que j'y pense, en parlant des codes sources. Alors, c'est vrai qu'on promeut le libre et le code source ouvert. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'on peut voir ce que fait le programme que l'on utilise, savoir si on se fait aspirer nos données, si ça repart à droite, à gauche, ou bien si tout est clairement sécurisé, ou en tout cas qu'il y a une tentative de sécurisation maximale possible. Après, rien n'est parfait, mais l'avantage d'avoir un code source ouvert, surtout si tu permets aux gens de participer et de faire des dépôts, enfin de rajouter des choses sur ton dépôt, ça permet donc d'améliorer le produit, ce qui est en lui-même est assez génial. Voilà. Donc là, dans le cas de Loch Nest, le code source ne sera pas ouvert, en tout cas au début. Pourquoi ? Moi, j'ai posé la question sur le KissKissBankBank et ce qui m'a été répondu, et ce qui se comprend, c'est que pour l'instant, les 3 fondateurs ne sont que 3 et ils ne peuvent pas se permettre encore de gérer le dépôt. Alors, Je pense que c'est une excuse qui est valable. Surtout, pour être au clair, je connais plutôt bien un des trois fondateurs du projet. Donc je lui fais entièrement confiance là-dessus. C'est quelqu'un qui est grand connaisseur du libre, utilisateur du libre depuis longtemps. Et qui, je pense, est plutôt... je fais l'hypothèse qu'il est complètement pour ça. Mais que pour l'instant, il y a des contraintes techniques ou des choses à penser qui, pour l'instant, ne sont pas prioritaires. Enfin, ça, c'est pas le projet prioritaire. Voilà, donc bon, c'est un point négatif pour l'instant sur, sur Loch Ness, mais point négatif qui est amené à disparaître. Donc je continue. L'outil Loch Ness, tu vas le brancher à soit ton ordinateur, alors pour l'instant Windows, soit à ton smartphone, pour l'instant Android. Tu vas le brancher grâce pour l'ordinateur grâce à un câble USB-C. Alors quand tu le préco, tu as le choix entre un câble USB-A vers USB-C ou un câble USB-C vers USB-C. Si tu te poses la question, moi j'ai choisi l'USB-C vers USB-C. Pas que j'ai beaucoup de devices qui ont de l'USB-C en natif. J'ai comme un smartphone qui fait ça. Mais je me dis que dans l'avenir, c'est quand même le format qui va perdurer. Donc... Et puis voilà, aussi moi j'ai en permanence sur mon PC de bureau un câble USB-A vers USB-C qui me sert notamment à recharger ma souris en cas de besoin ou à brancher mon smartphone. Bah là, ça sera l'occasion d'y brancher le Loch Ness. Donc c'est comme ça que tu te connectes. Sinon, si ton ordinateur a le Bluetooth, tu peux te connecter en Bluetooth pour activer donc la synchro entre la clé et ta machine. Pour le téléphone, il est donné uniquement le Bluetooth, mais je me ferai un malin plaisir de tester. Après, c'est peut-être une gestion des ports qui est différente, mais je testerai quand même de faire fonctionner le Loch Ness en le branchant en USB-C. Donc voilà pour la connectique. Après, tu es obligé, pour l'instant, de faire tourner la communication, en tout cas entre l'ordinateur ou le smartphone et le Loch Ness, avec... Pour la partie ordinateur, une extension Chrome, donc ça marche sur tous les navigateurs basés sur Chromium. Donc il y en a quand même un paquet, tu as de quoi faire. Et dans un avenir plus ou moins proche, plutôt 2024, il est prévu une compatibilité avec les navigateurs non Chrome. Donc j'imagine que c'est surtout Firefox qui est prévu, en tout cas qui est anticipé et projeté. Donc normalement, tout le monde devrait avoir la possibilité de se connecter. Et sur Android, tu as une application Loch Ness qui sera disponible, qui te permettra de gérer la communication entre ton Loch Ness et ton smartphone. Pour te connecter, l'ordinateur, lui, va utiliser le navigateur web, mais pas, ça ne va pas y avoir de communication via le web. Ça va être une communication directe. En fait, c'est juste que l'interface va être l'interface de ton navigateur. Ok, je pense que c'est pour une plus grande simplicité de développement. Donc là, tu vas te connecter. À la première utilisation, tu auras la possibilité de renommer ton Loch Ness, donc pour lui donner, par exemple, ton prénom et version 1 ou ton prénom et version 2. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que le Loch Ness a la possibilité d'avoir des clés de secours. En fait, tu peux très bien, l'idée, même ce qu'il propose sur le site ou bien sur le KissKissBankBank, c'est d'acheter deux Loch Ness, un que tu vas garder au quotidien et un deuxième qui va servir de clé de secours. Comme tu as deux clés de voiture, normalement, tu as une clé normale et plus ton double, ce qu'on appelle ton double, là, avec Loch Ness, tu auras la même possibilité. Ce qui est plutôt une bonne idée. Sauf que quand on voit le prix de vente commercial prévu, 120 euros, la clé, tu te dis en acheter deux pour 240 balles, ça pique un petit peu. Donc je ne sais pas si tout le monde le fera, mais en tout cas, c'est une idée qui est fort intéressante. Alors actuellement, en Early Bird, tu as les Loch Ness à 99 euros et les versions non Early Bird sont à 110 euros au jour où j'enregistre, tu as encore des versions Early Bird qui sont dispo. Je crois qu'il en restait dans les 70 quand j'ai regardé cet après-midi. Donc, tu as encore de quoi faire. Donc voilà, tu te connectes, que ce soit à ton ordinateur ou à ton smartphone grâce à l'extension ou à l'application. Et là, tu as une interface qui te permet de gérer finalement tes mots de passe enregistrés et qui permet d'ouvrir la communication entre... Donc la clé Loch Ness et le service que tu veux utiliser. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En fait, ça reprend ce qui existe déjà dans les gestionnaires de mots de passe, hein, sauf que là, tu as tout qui est centralisé sur une clé physique. Et quel est l'avantage? Alors, le gros avantage, c'est que d'abord, c'est ta clé physique que tu as sur toi. Donc, tu ne la branches et elle n'est reliée à une machine que lorsque tu le décides. Elle n'est pas accessible en permanence. Donc c'est déjà un point positif et ça te permet de dégager de ta machine, de tes machines, tous les mots de passe enregistrés. Alors oui, ça t'oblige à avoir en permanence sur toi cette clé et ton appareil sur lequel tu veux consulter les services. Alors effectivement, si tu veux faire un petit jeu à la con, tu peux très bien aussi utiliser le gestionnaire natif hein, de ton navigateur ou de ton smartphone. Je pense que là, personne ne t'en voudra, surtout si tu mets un mail à la con et que tu utilises un mot de passe général aléatoirement. Voilà, je pense que tu n'as pas grand-chose comme info, surtout si tu n'utilises jamais de mode de paiement dessus. Tu n'as aucune info qui est récupérable, même si on te craquait l'accès au service. Donc l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait des communications sur le web. Voilà, tu limites au maximum le nombre de communications sur le web. Donc là, tu n'auras qu'une seule communication, c'est le moment où ton navigateur va aller communiquer avec le service en ligne pour donner, pour vraiment le moment de l'identification. C'est le seul passage qui est obligatoire. Il n'y a que ce moment de communication qui est obligatoire et qui a lieu. Le reste du temps, tu n'es que sur une communication locale. En filaire, si tu es branché sur ordinateur, ou en Bluetooth, si tu es connecté sur ton smartphone ou l'ordinateur. Donc c'est quand même une manière assez intéressante de gérer la sécurité. Tu ne te connectes et tu n'allumes ton appareil que lorsque tu en as besoin. Le reste du temps, pas la peine, c'est réglé. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Tu limites le nombre d'accès à Internet. Et tu sais que, même si normalement les transferts de mots de passe sont chiffrés, bah, ça évite que tu te le fasses gauler. Donc ça, c'est quand même un sacré bon point. Après, quand tu vas utiliser ton Lock Nest, tu vas devoir t'identifier à chaque fois. Et pour t'identifier, tu as un mot de passe maître qui, alors paradoxalement, est assez simple. Et oui, le mot de passe maître du Lock Nest est composé de 7 caractères chiffrés. Uniquement 7 nombres. Alors pourquoi ils ont fait ce choix-là ? Eh bien, il faut savoir que quand tu vas te connecter à ton Lock Nest, tu vas avoir 3 tentatives, comme sur les cartes bancaires, où tu peux rentrer ton essai et t'es pas du tout impacté. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire, je tape la première fois mon mot de passe, je me trompe, hop, je peux réessayer. Je tape une deuxième fois mon mot de passe, je me trompe, hop, je peux immédiatement réessayer. Je tape une troisième fois mon mot de passe, je me trompe, et bien je suis obligé d'attendre 10 minutes avant de faire le quatrième essai. Ah, c'est con, hein ? Mais à chaque fois, tu vas avoir ces 10 minutes d'attente entre chaque essai. Ce qui fait que le fait de mettre ces 10 minutes entre chaque essai repousse à 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, alors c'est ce qui est donné sur le site ou sur le KissKissBankBank de Loch Ness, enfin bref, ce qui est donné par les éditeurs, je crois que la durée de test passe à 13 ans avec 7 caractères, avec 7 chiffres uniquement. Alors que la version avec 6 chiffres passait était seulement de 9 mois. Donc ils ont considéré que 9 mois c'était trop court et là donc les producteurs du produit font ils estiment que la durée de sécurité qui était proposée avec ces 7 chiffres et ces 10 minutes d'attente à partir du 4e essai te donne une durée suffisante pour te rendre compte que tu n'as plus ta clé Lock Nest et pour changer les mots de passe, pour resécuriser tes mots de passe d'accès au service. Finalement, ça se défend, c'est pas bête. Et le fait de n'avoir que 7 chiffres te permet d'avoir un code qui est assez simple. Alors, ils expliquent aussi sur le site pourquoi ils n'en mettent pas 8. L'explication qui est donnée, c'est que les gens auraient sûrement trop tendance à mettre des dates de naissance. Et effectivement, le fait d'avoir 7 chiffres, eh bien, tu vas devoir mémoriser une combinaison. Alors, que tu vas sûrement rattacher à quelque chose, hein, mais tu vas être obligé de faire un lien particulier ou d'enlever dans une date de naissance un chiffre. C'est possible aussi. Bref, tu as plusieurs possibilités. À toi de choisir celle qui sera la meilleure et la plus difficile à trouver. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses que je trouve intéressantes. Donc, une connexion, enfin, un accès au Loch Ness qui est relativement facile grâce à ce code à 7 chiffres maître, voilà, qui est relativement facile à retenir et à taper parce que voilà, sur ton pavé numérique, tac, 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 tu tapes tes 7 chiffres, c'est réglé. Moi, ce que je verrais bien, c'est d'avoir un accès par biométrie, mais l'accès par biométrie est quelque chose que tu ne peux pas changer. Alors que ton code à 7 chiffres, tu peux le changer dès que tu le souhaites. Et oui, que tu mettes ton pouce, ton index, ton majeur, ton annulaire ou ton auriculaire comme empreinte, ça reste tes empreintes et tu ne peux pas les changer. Ça, c'est quelque chose sur la biométrie qui est quand même assez limitant. Il n'y a que toi qui le possède, mais si jamais quelqu'un arrive à faire une copie, tu l'as dans l'os. Alors juste pour l'enregistrement, je te précise, si tu entends des claquements, ce sont mes essuie-glaces qui font ça. Ce n'est pas un problème sur l'enregistrement. Bref, donc où est-ce que j'en étais ? Oui, la biométrie. Donc voilà, la biométrie n'est pas gérée sur LockNest. Dans cette version, tu n'as pas la possibilité non plus de gérer, enfin en tout cas de générer des clés OTP. Tu sais, ces clés OTP, ce sont des clés à 6, 8 ou 9 caractères que certains services te proposent. Donc là, tu devras quand même garder un service tiers. Donc, tu en as plein qui existent, tu as FreeOTP, tu as Microsoft Authenticator. Bref, tu as le choix avec les générateurs de clés OTP. Ce qui sera géré sur le LockNest actuellement, ça va être tout ce qui est mot de passe enregistré. Par contre, ça te permet de générer des mots de passe complexes. Tu peux gérer aussi la difficulté des mots de passe. Donc là, voilà, tu n'es pas obligé de les choisir. L'application, enfin l'outil, gère tout pour toi. LockNest, c'est ce produit qui te permet finalement d'avoir ta sécurité dans ta poche et tu sais quand tu as l'outil avec toi et tu sais quand tu l'actives, tu sais quand tu le branches, donc tu sais à quel moment tu dois finalement te déconnecter rapidement. Moins tu es connecté, comme je te l'ai dit, moins tu es sensible au piratage, en tout cas aux tentatives de piratage. Voilà donc ce LockNest que tu peux précommander sur KissKissBankBank. Donc comme je te disais, LockNest est dispo donc sur KissKissBankBank. Tu as différents paliers. Alors oui, je t'ai pas parlé des différents paliers. En fait, il ne propose que deux paliers. Le palier 1, bon, c'est le financement de 20 000 euros qui est atteint. Donc ça permet de rentrer dans les frais et d'envoyer donc aux early adopters tous les produits qui ont été commandés. Donc il y a deux produits qui sont un petit peu différents des appareils. Tu as un porte-carte anti-lecture RFID. Donc ça qui est vendu en bambou, alors que je trouve un petit peu cher, il a 20 balles. Moi je sais, j'en ai acheté à moins cher, je crois que j'avais payé les miens 7 euros les 3. Ok, ils sont noirs, tout simple, mais bon, finalement pour être rangé dans le portefeuille, je m'en fous, ça suffit. Ils ont un bloqueur de data sur les ports USB-C. Donc à partir du moment où tu branches ça entre ton appareil et autre chose en USB-C, tu ne peux transférer que de l'électricité. Donc ça ne sert qu'à l'alimentation ou à la recharge. Donc c'est une manière de sécuriser ton appareil pour être sûr que tu peux te brancher et que tu ne te feras pas pirater les données. Ça, c'est surtout utile pour les smartphones. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est 50 euros la petite prise. Bon. Voilà, aux dernières nouvelles, je crois pas en avoir vu vendu ni du porte-carte anti-lecture RFID, ni de la puce anti, enfin de la puce, de la petite connectique anti-transfert de données via USB-C. Donc tu as ensuite le Early Bird, donc qui est le LockNest plus son câble. Donc tu choisis à la commande si tu prends USB-C vers USB-C ou USB-C vers USB-A. Tu as sinon le pack normal, juste le pack KissKissBankBank à 110 euros. Pareil, tu as ton LockNest plus les câbles. Tu as le pack de LockNest pour 200 euros. Pareil, alors les câbles, je ne sais pas si tu en as un ou si tu en as deux. Bon, je pense que là, c'est vraiment un détail. Et après, tu as le pack mécène à 500 euros, le LockNest et son câble, tout simplement. Donc il y a quelques packs mécènes qui sont partis, je crois qu'il y en a 4 au moins. Voilà, donc c'est sympa pour ceux qui peuvent. Moi je suis parti sur le pack Early Bird, donc à 99 euros. Et normalement la livraison des produits est prévue si le projet est finalisé. Là il était aujourd'hui à 9000 euros. Donc il manque encore 11 000 euros, mais il y a encore 30 jours de financement. Donc c'est possible, c'est pour ça que j'en fais la pub aussi. Moi, je pense que c'est un projet qui est hyper intéressant et tu n'as pas besoin finalement à partir du moment où tu as l'extension sur ta machine, à partir du moment où tu as l'application sur ton smartphone, tu n'as plus besoin des services en ligne. Ok ? Juste pour mettre à jour les applications ou l'extension, mais clairement, tu n'as plus besoin d'Internet pour ça. Donc, ce n'est pas une application qui te bloque ou tu as besoin forcément d'Internet pour fonctionner. Alors, bien sûr, tu auras besoin d'Internet pour te connecter aux services en ligne, c'est évident. Mais l'idée est faite pour que tu ne sois pas tributaire de la connexion Internet. Donc, tu peux très bien te connecter pour gérer tes mots de passe en étant en mode avion. Par exemple, sur PC, tu n'es pas connecté et tu peux très bien accéder à tes données. Un autre truc intéressant, c'est que si tu estimes que tu n'as plus besoin du service ou que le service ne te convient pas, tu peux quand même faire un export de tes données au format CSV. Donc, bien sûr, ça sera un export qui sera complètement en clair, qui sera absolument pas chiffré, mais tu es toujours propriétaire de tes données. Donc là, tu récupères, tu extrais les données de ton Loch Ness et tu peux les récupérer pour les remettre dans un autre outil que tu préfères utiliser. Donc le format CSV, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un format de données brutes. Souvent, c'est soit les données sont séparées par un espace, par une virgule ou par un point-virgule. Mais c'est un truc que tu peux ouvrir dans n'importe quel tableur, même basique, et tu peux faire ce que tu veux de ces données-là. Donc tu restes maître de tes données. C'est quand même quelque chose de bien. Et certains services, pourtant en open source, ne proposent pas cette extraction de tes données librement. Donc voilà, c'est pour tout ça que moi, j'ai fait le choix de soutenir le projet. Si toi, ça t'intéresse, bah, j'espère que tu pourras également soutenir le projet. Tu as le choix dans ce qui peut t'intéresser. Si tu veux retrouver le projet, je te redonne le lien. C'est locknest.fr, locknest.fr. Si moi, tu veux me retrouver, eh bien, tout simplement, tu vas sur Mastodon. Donc, tu cherches irslo@mastodon.zaclis.com. Zaclis, tu l'écris Z-A-C-L-Y-S. Si tu veux retrouver l'épisode ou les podcasts, tu peux tout simplement taper lppc.irslo.net. LPPC pour libérer pour pod conduite. Ou bien, tu peux aller sur blog.irslo.net. Là, tu vas arriver sur le blog où sont recensés tous les épisodes et d'autres infos que je mets. Donc, tu peux y retrouver quand je te parle de musique, de photos, de littérature, de séries, de films, enfin de ce qui me plaît, quoi, ou de matériel. Pareil, là, je ferai un billet sur le blog justement pour parler de Loch Ness, où je l'ai déjà fait même. Oui, je l'ai déjà fait, donc je mettrai ça en lien. Bref. Et sinon, tu vas directement sur irslo.net et là, tu accèdes à mon site photo. Voilà, site photo qui te renvoie aussi, si tu veux, sur le blog. Il n'y a pas de... Tout est relié ensemble. Eh bien, écoute, je te remercie d'être arrivé au bout de cet épisode. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Porte-toi bien. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut !